Voici la voix en or, Luc Lavoie.
Bonjour Luc, comment ça va?
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. Avant de tomber dans la politique, Luc, je veux t'entendre sur le débat qu'on vient d'avoir, Paul et moi, c'est-à-dire...
Très important débat.
Est-ce que t'as un sapin naturel ou artificiel à la maison?
Présentement, j'en ai pas de sapin. Mais j'en aurai un qui sera en place dans la région de Rimouski parce que c'est là que je vais passer Noël. Okay. Et je vais acheter un sapin naturel, c'est sûr.
On se montre 2-1.
C'est ça. Toi, tu te caches derrière les jupons de Luc pour venir dénigrer mon idée du sapin artificiel.
C'est quoi? C'est lettre! C'est lettre!
Ben, c'est faux. Non. Hey, tantôt, j'ai fait la distinction entre les sapins naturels, et les sapins artificiels et les sapins superficiels. Et les superficiels, c'est les sapins artificiels, mais blancs avec des lumières intégrées, là. Ceux qui sont vraiment moches.
C'est ton genre, ça, ce nom?
Non.
Non?
Non. Et c'est blessant, ce que tu dis.
Ben, depuis que je sais que t'as pas de linge pour t'habiller puis sortir depuis ce temps-là,
ça aussi, c'est faux. Tu viens pas assez souvent à Québec, Luc. Je suis rendu en chemise. Tout le monde m'applaudit pour mes vêtements maintenant.
Ah, ben, mon Dieu Seigneur. Ben là, je suis fier. J'espère que tu me reconnais un peu de crédit.
L'influence.
Ben, tu dis à tout le monde, c'est grâce à Luc Lavoie.
Bon, enfin!
Bonne affaire de régler. Excellent. Luc, la vidéo virale du jour concerne notre bon premier ministre, Justin Trudeau. Pour ceux et celles qui l'ont pas encore vu, ça se passe à Buckingham Palace hier soir. C'est en marge du sommet de l'OTAN. Et dans la vidéo, on voit Justin Trudeau qui est en train de jaser avec Boris Johnson, avec Emmanuel Macron, Mark Rutte des Pays-Bas. Et la vidéo vient avec du son. Et on comprend que M. Trudeau se moque de Donald Trump et de sa conférence impromptue de 40 minutes quand il est arrivé à Londres. Il dit même « J'ai vu la mâchoire des gens de son équipe à M. Trump tomber. » On se demande, est-ce que les banquets de l'OTAN, c'est l'équivalent de la cafétéria de l'école secondaire, Luc?
Écoute, d'abord, c'est pas la première fois là, que des chefs d'État se font prendre avec des microphones qui sont encore ouverts. C'est arrivé à Jean Chrétien, c'est arrivé à Barack Obama, c'est arrivé à Sarkozy, c'est arrivé à tout le monde. Donc, ils devraient apprendre tous une leçon de ça. Deuxièmement, je l'ai écouté souvent, là, puis réécouté. Oui, il y avait un peu de sarcasme, mais c'était pas... T'sais, si tu compares ce que Trump a dit de Trudeau à son départ du sommet de Charlevoix il y a 2 ans... si tu compares ça, ce qu'il vient de faire, là, c'est à peine une pichinotte, là. Tu sais, l'autre avait dit la dernière fois qu'il n'y avait pas de parole, puis que c'était un menteur, puis qu'il avait retiré son appui au communiqué final, et patati et patata. Alors, non, c'est pas la cafétéria, mais...
Mais c'est le contexte où, justement, il y a juste l'image, il a l'air d'être en train de me mêler dans le dos de l'autre. Ça fait pas grand chef d'État, là, tu sais.
mais par ailleurs, tu vas admettre avec moi, Paul Raphaël, que on n'entend pas ce que dit Macron, puis il a de l'air d'être
absolument
volubile.
C'est vrai.
J'aimerais beaucoup savoir ce qu'il dit. Parce que dans les derniers jours, écoute, Paul Raphaël, il faut quand même se dire une chose. Là. L'insulte et l'injure sont les premières choses qui viennent à la bouche de Donald Trump
vrai.
À chaque fois qu'on y parle.
Vrai.
Alors, je veux dire, si Trudeau a déplu aux vaniteux en chef... Il y a bien du monde au Canada, puis il y a bien du monde ailleurs qu'au Canada qui vont dire « Tiens, enfin, quelqu'un rit de lui. »
C'est pas fou.
Parce qu'il rit de tout le monde, tu comprends? Il insulte, il injurie tout le monde. Maintenant, je suis très conscient du fait que dans la politique étrangère, le but n'est pas d'être gentil ou pas gentil, le but, c'est de voir à nos intérêts. Est-ce que c'était une façon de voir à nos intérêts de rire du président des États-Unis en présence de chefs d'État comme celui de la France et de la Grande-Bretagne? Probablement pas. Alors, je dis pas qu'il y a rien là, mais on va tomber ça, on va laisser aller ça disons, dans le domaine des gaffettes.
Ouais,
c'est pas une bien grosse gaffe.
Quand on en a parlé en début de show, Luc, j'ai l'impression que les gens se disaient, tant qu'à confronter Donald Trump ou faire valoir certaines idées à son égard, il aurait été mieux d'y faire en pleine face plutôt que d'aller mémérer dans son dos. Ça donne un peu l'impression d'une atmosphère de bitchage à l'OTAN. Puis c'est pas,
ben, y a de quoi,
c'est pas digne de nos grands dirigeants. Là.
Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, là, l'OTAN, ils sont 27 là-dedans. C'est drôlement important. L'OTAN est à un carrefour. L'OTAN va peut-être cesser d'exister éventuellement. Et Trump est rentré là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles. Il est arrivé, puis vous payez pas le 2% de votre PIB pour la défense, puis vous devriez avoir honte, puis de quoi vous mêlez, vous savez rien. Puis écoute, c'est une pluie d'injures qui s'abat sur tous les chefs qui sont là, et qui, au nom d'exactement le principe que tu viens d'exprimer, c'est-à-dire que nous sommes à la tête d'un État, alors on va faire preuve de retenue, à un moment donné, ils se tannent, puis ils disent, regarde, j'ai déjà vu, tu sais, toutes les conneries qu'il a dites à propos de Macron, tout ce qu'il a dit à propos d'Angela Merkel, écoute, ça va passer, là, c'est ben amusant, puis entre autres, c'est une des affaires qui fait en sorte qu'on parle du Canada à l'étranger, ouais, parce que ça fait le tour du monde, là. Puis Boris Johnson, c'est d'autant plus drôle de le voir se bidonner à côté de Trudeau, parce que Boris Johnson, c'est le gars qui a l'appui de Trump quasiment inconditionnel. Il arrête pas de dire comment c'est un gars merveilleux.
Ils sont taillés dans le même bois, ces deux-là, ou presque.
Ouais, ouais, bien des égards, bien que, contrairement à Trump, je pense pas que Boris Johnson est le même genre d'ignare, là. Tu sais, je veux dire, c'était un gars qui a étudié à Cambridge, puis qui a étudié à Eton School en Angleterre. Tandis que Trump, je me demande s'il a déjà lu un livre dans sa vie. Je pense que le dernier livre qu'il a consulté, c'était le bottin téléphonique, puis ça fait au moins une quinzaine d'années parce que ça existe plus. Tu comprends, c'est un ignare absolu, il sait absolument rien de rien, il connaît rien ni à la géographie ni à l'histoire. C'est un vaniteux qui se regarde dans son miroir puis qui se trouve de son goût, puis bon. Moi, je trouve pas ça... Pas ça bien grave, mais c'est amusant. J'avoue que c'est amusant. Mais tu sais, souviens-toi, Jean Chrétien, lui, il était à Madrid.
OK.
À une conférence de l'OTAN. Et il avait pas vu que des micros étaient à côté de lui puis que c'était ouvert. Puis il a dit quelque chose qui était assez... Il a dit en parlant des... Il parlait au premier ministre de la Belgique puis à celui du Luxembourg. Hein, puis il leur a dit que... Dans mon pays, c'est-à-dire le Canada, dans vos pays, vous de la Belgique et du Luxembourg, tous les politiciens américains seront en prison parce qu'ils sont toujours en train de se vendre puis d'essayer d'avoir de l'argent pour gagner les élections. C'est moins drôle. Attends, c'est pas tout. Il y en a un autre, là. John Major, premier ministre britannique, qui savait pas que les micros étaient là, il était en train de dire qu'il y avait des deux de pique au sein de son cabinet. M'a dit, il y en a qui se sont demandé si c'était lui ou si c'était un autre. Écoute, T'as Barack Obama et Nicolas Sarkozy. C'est Sarkozy qui dit Netanyahou, le premier ministre d'Israël, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Puis Obama, il dit, ouais, ben tu peux te compter chanceux parce que moi, je l'ai dans les pattes du matin au soir. Ça, tu sais, c'est pas mal plus grave.
Ah, mais moi, je me dis, Luc, pourquoi ils font pas de la politique tout le temps comme ça? Ça serait bien plus le fun.
Ah, ben, dans ce sens-là, oui. Puis il y a le fameux, évidemment, t'as Jacques Chirac, là, qui avait dit, comment voulez-vous? Comment est-ce qu'il a dit ça, Chirac? Je trouve ça tellement drôle. Sorti ça tantôt. Chirac, lui, ça concernait la nourriture, OK? Il a dit,
c'est bon, ça.
La seule chose que les Britanniques ont apporté à l'agriculture, c'est la vache folle. C'est pas pire, ça. C'est pas pire.
Donc, toujours devant un hot mic qui appelle, donc un micro qui était ouvert, puis on s'y attendait pas. Là.
C'est ça. Alors, tu sais, si je compare avec Trudeau, puis j'ai pas été très tendre avec Trudeau lors des dernières élections, mais néanmoins, faut pas exagérer l'affaire. Hein.
Okay.
Et dans leur plus profond intérieur, il y a bien des Canadiens, bien des Britanniques, bien des Français et bien des citoyens du monde qui disent enfin, il y en a un qui a donné le doigt d'honneur, le baptême.
Mais il n'y a pas eu le guts d'y faire en pleine face.
Il n'y a pas eu le guts d'y faire en pleine face. On pourrait dire ça.
OK. Là, il y a la Chambre des communes qui reprend ses activités demain du côté d'Ottawa. Du côté de Washington, ben, M. Trump va être de retour ce soir. Et là, ben, les démocrates considèrent avoir en main des preuves accablantes de la conduite inappropriée du président américain. Où est-ce qu'on en est là, dans le processus d'impeachment, Luc?
Ben, la première partie est terminée, c'est-à-dire que la partie où on faisait témoigner des gens dans des audiences publiques, puis que de la recherche se faisait en parallèle par du staff affecté à ce comité-là, de la Chambre des représentants, qui est dominé évidemment par les démocrates. Et là, on est à l'étape de ce qui s'appelle le comité judiciaire.
Okay.
C'est-à-dire que là, maintenant que tout matériel a été, ou qu'on considère que le matériel a été colligé, là, on est au point de faire venir témoigner des experts. Ils ont commencé ce matin, des experts en droit, pour essayer de voir si, selon eux, tout le matériel accumulé est suffisant pour répondre à la définition de ce qui est « high crime and misdemeanor », qui est ce que la Constitution américaine dit qui peut mener à une destitution du président des États-Unis. Alors, il y en a déjà un qui a été entendu ce matin, évidemment, il a dit que le président avait mis en danger la sécurité du pays dans sa façon de se conduire avec l'Ukraine. Tu vas en avoir d'autres qui vont essentiellement dire la même chose. Qu'est-ce que tu veux? C'est contrôlé par les démocrates. Alors, la prochaine étape, ça va être la mise en accusation. Après avoir entendu le comité judiciaire, ça va être la mise en accusation. Donc, ils vont rédiger une mise en accusation. Ils vont la voter. Au vote simple, ça suffit.
Okay.
On considère à partir de ce moment, techniquement, que le président est destitué, mais sa destitution demande l'approbation du Sénat, qui, dans ce cas-là, demande 2/3 des votes du Sénat. Or, les démocrates n'ont pas la majorité au Sénat, puis même une majorité simple ne serait pas suffisante. Et ce sera impossible de procéder à la destitution de M. Trump pour une bien bonne raison. Ils n'ont pas le vote. Le vote républicain demeure solidement derrière Trump.
Mm-hmm.
Et ça prendrait quasiment une 20aine de sénateurs qui traverseraient la Chambre pour aller voter. Ben, ils ont pas, c'est une expression, traverser la Chambre, ils n'ont pas à traverser quoi que ce soit.
Ce serait du côté des démocrates dans ce vote-là.
Des démocrates. Alors, aussi bien se le dire, là, c'est de la pensée magique de penser qu'une telle chose peut se produire. Donc, de plus en plus, les républicains traitent ce processus-là comme rien du tout. Ils interviennent pas beaucoup dans les audiences.
Mais disent que c'est ennuyant, que c'est plate, qu'ils vont s'endormir pour essayer de convaincre la population de ne pas le regarder tellement c'est gazant.
Ouais, ben je dois dire qu'ils ont raison. Je veux dire, là, c'est rare que je suis d'accord avec les républicains de cette génération-ci, là. Mais je veux dire une affaire, c'est plate. C'est plate. Et ils ont tourné dans la même sauce. T'sais, c'est une erreur politique catastrophique pour les démocrates. Si, tu sais, ils vont adopter leur article, là, c'est-à-dire leur mise en accusation, puis là, tous les supporters de Trump, n'oublie pas qu'ils ne tombent pas dans les sondages, présentement, ils montent, ou ils se stabilisent autour de 45.
Mm-hmm.
C'est beaucoup, ce 45. Et ces gens-là croient tous qu'il y a une telle chose que ce que la droite américaine et surtout Trump appellent le « deep state », l'état profond. Ça veut dire toute la machine gouvernementale qui est autour des agences de sécurité, qui est toujours en place d'un président à l'autre, qui n'a pas de changement. Puis là, selon cette pensée que Trump leur a mis dans la tête, mais qu'ils ont dans la tête déjà depuis longtemps, la droite américaine, cette idée, c'est qu'il faut casser le deep state, parce que comme c'est là, les politiciens n'ont plus aucune influence sur quoi que ce soit. Alors, quand ils vont arriver avec la mise en accusation, ils vont dire, vous voyez là, ce que je vous disais, le deep state, là, ils sont en train d'organiser un coup d'État.
Un coup d'État.
Et, je veux dire, ça va tourner en faveur des républicains. Ça va tourner en faveur de Trump. D'ailleurs, Trump, il commente à peine cette affaire-là. C'est devenu... Écoute, je sais pas si vous le faites vous autres aussi, mais des fois, chez nous, le soir, je m'installe, j'écoute CNN, puis Fox, puis ces affaires-là. C'est rendu plate, là. Je vous le dis, là. C'est vraiment... Il y a rien que j'aimerais plus que voir Trump se faire sacrer à la porte de la Maison-Blanche, mais ça n'arrivera pas ce coup-ci, là. Oubliez ça, là. Non seulement ça, mais par la manœuvre entreprise par les démocrates, qui étaient voués à l'échec dès le départ à cause des chiffres, qui parlent d'eux-mêmes, va probablement contribuer... Si jamais il est réélu Trump, ce que je prédis qu'il va arriver, les démocrates auront à se regarder dans le miroir puis se demander, coudon, on a-tu couru après, nous autres, là?
OK.
Parce que lui, il est un peu mort de rire face à ça.
OK, ben ça va nous permettre de mieux lire les manchettes, parce que quand on regarde ça d'un œil un peu externe, on a l'impression qu'ils vont l'avoir, qu'ils sont vraiment sur le bout d'eux, mais finalement, tout ça va arrêter au Sénat.
C'est
puis ça va se retourner contre eux.
C'est une pièce de théâtre dont on connaît la fin. Et puis, quant à mon arbre de Noël... Moi, comprends-tu, je trouve ça tellement plus beau, Paul Raphaël, s'il vous plaît, lâche-moi tes arbres artificiels.
Ah, puis tu vas-tu le chercher dans le bois, en plus, ton arbre? Tu sais, les beaux sapins, là, tout échevelés dans
petit,
le bois.
Quand j'étais petit, je faisais ça avec mon père.
Les bras écartés.
Paul Raphaël, quand j'étais petit, je faisais ça avec mon père. Puis à chaque fois qu'on revenait à la maison, ma mère nous engueulait parce qu'elle trouvait que ce qu'on avait ramené était un chicot qui était laid, puis il fallait y retourner. On se gelait, puis on finissait par avoir un arbre de Noël.
Ah, je pensais que t'allais dire que votre sapin, ce que vous rameniez était tellement gros que vous en trouviez comme avec le sapin à des boules.
Mais des fois, il fallait creuser des trous dans le tronc puis aller chercher des branches qui étaient derrière pour les mettre là pour combler les trous. C'était toute une aventure.
Des chirurgiens de sapin, c'était
un chirurgien de sapin.
La voix.
Ça fait que Paul Raphaël, maintenant, tu t'habilles mieux. Je suis content d'avoir eu de l'influence sur toi. Maintenant, lâche les arbres artificiels, s'il vous plaît.
Maintenant, mets ton bas de soute, mets ton manteau, puis va chercher un arbre dans le bois.
J'adore l'expression « bas de soute », qui est tellement typique de Québec. Je vous adore.
Un bas de soute.
Salut, Luc. À la semaine prochaine.
Salut, Luc.
Ciao.